enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
On a un Dieu qui est merveilleux. Et ce qui est merveilleux, non seulement il est merveilleux, mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il veut qu'on le connaisse. Amen.
Amen.
Vous savez, dans notre vie, on a toujours cherché à connaître des gens importants. Je me rappelle quand on était à l'école, il y avait celui-ci ou celle-ci qu'on admirait plus que les autres. Un petit peu la fille populaire ou le garçon populaire. Tous les jeunes sont comme ça devant lui. On l'imite, on parle comme lui, on s'habille comme lui. On a la même marque de téléphone. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone que lui. Vous voyez de quoi je parle? Et on veut absolument connaître cette personne. On veut que cette personne nous connaisse aussi. On veut être connu de cette personne. Et on met tous nos efforts là-dedans. Et combien de fois, n'est-ce pas, on a été déçus? Vraiment déçus. Parfois extrêmement et profondément déçus. Mais quand tu connais le Seigneur, que tu commences à le découvrir, et que en plus de ça, tu sais que tu es connu de lui, tu ne seras jamais déçu. Vraiment, le Seigneur, il y a des gens qui gagnent à être connus. Amen. Et nous, on gagne. On gagne quand on le connaît. Tu ne perdras jamais. Tu gagneras toujours. Amen. Et le Seigneur veut se manifester. Il veut se faire connaître. Dans le monde entier, il y a des églises. Où il y a d'autres endroits. Ou parfois même d'autres religions. On parle de Dieu. On dit beaucoup de choses sur Dieu. N'est-ce pas? On parle de Dieu. On dit Dieu a dit que Dieu pense que, et souvent c'est du n'importe quoi. Vous avez déjà entendu des choses comme ça, je pense. Dieu m'a dit que, ou Dieu te dit que, ou Dieu dit que, tout simplement. Et c'est tout sauf Dieu qui, c'est n'importe qui sauf Dieu qui dit ces choses. Amen. Amen. Ou parfois on dit, oui, Dieu va faire ceci. Dieu va faire cela. Il y a vraiment une chose que le Seigneur va faire. Et on en parle. Et il n'y a rien qui se passe. Dans le monde entier, on voit ces choses. Des gens qui disent que Dieu dit, que Dieu va faire, et Dieu n'a rien dit, et Dieu ne fait rien. Mais nous, nous servons un Dieu qui est vivant. Et nous nous référons à quoi? À ce que dit sa parole. Elle est notre seule base. Elle est notre seule référence. Amen. Fais de la parole de Dieu ta seule référence. Parce que si tu fais cela, tu seras toujours en mesure de reconnaître. Ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Vous savez, il y a des choses, on le voit même dans le naturel. N'est-ce pas? L'original et le piraté. Amen. Vous connaissez les choses originales, les choses piratées. Quand tu regardes comme ça, tu te dis, bon, c'est la même chose. C'est juste le prix qui change. Je prends le piraté parce qu'il est moins cher. Et je sais que vous avez fait cela. Moi aussi. Et après deux jours, on a été obligé de racheter. Je me rappelle, une fois, j'ai acheté une paire de chaussures à mon fils. Vraiment, je ne peux pas l'oublier. C'était des baskets, elles étaient vertes. Et à l'époque, il devait avoir 6 ans, 7 ans. Maintenant, il en a 21. Vous voyez, ça a passé. Mais je me souviens de ces chaussures. Je ne pourrai jamais les oublier. Au marché. Mais vraiment, c'est la même chose que les autres. Et à l'époque, je sais que les prix n'étaient pas comme aujourd'hui. J'avais payé 3000 francs. J'ai dit, oh, j'ai fait une bonne affaire là. Si vous savez, les enfants, ils ont les pieds qui grandissent vite. En plus, les garçons, ils donnent des coups de pied dans tout et dans n'importe quoi. Dans les ballons, dans les amis, dans n'importe quoi. Dans tout. Alors, il faut vraiment qu'on ait un budget chaussures. Alors il met les chaussures le matin à l'école et quand il revient à midi, les chaussures étaient dans le même état que l'enfant. Elles avaient faim, la bouche grande ouverte. Vous voyez le genre de chaussures? Il y a l'original, il y a le piraté. Amen, amen. Et dans les choses qui sont dites de la part de Dieu, parce que c'est là où on en était, il y a l'original qui vient vraiment de Dieu, et il y a le piraté qui vient de l'homme, l'homme qui prétend que Dieu dit si, Dieu va faire ça. Des fois j'ai entendu des choses, des gens qui parlaient comme ça, des paroles, et après cela, on était entre nous et on
rigolait.
Un mois, deux mois, un an après, on rigolait. C'est jamais arrivé. Moi, il y a 5 ans de cela, oui, c'était il y a 5 ans. On m'a prophétisé que j'allais mourir. Bon, c'est une vraie prophétie parce que je mourrai un jour comme tout le monde. Mais je suis encore là. Et j'ai pas l'intention de partir. Amen.
Amen.
Je n'ai pas l'intention. Du tout. Je quitterai mon corps. Je quitterai cette terre quand j'aurai achevé ce que le Seigneur m'a donné à faire. Ce jour même là. Amen. Et vous aussi. Vous savez, des fois c'est difficile. On se dit, oh, vraiment j'aimerais mieux mourir, aller au ciel, voir les rues pavées d'or, me reposer dans ma maison, être devant le trône de Dieu. Des fois on rêve, on se dit, oh, j'aimerais vraiment ça. Oh, que la vie est difficile. Et quand ces choses viennent, je sais que ça parle à quelqu'un ce matin. J'ai dit non. Non.
Oh, yeah.
Je ne suis pas quelqu'un de lâche.
Sindumono,
je ne suis pas quelqu'un de faible.
Sindumono, enegenge.
Je refuse.
Danse.
Je refuse
Danse.
De me laisser aller.
Kure
je refuse wako. D'accepter des mauvaises circonstances.
Danse,
je refuse de me laisser impressionner,
Danse,
influencer, découragé
no
par qui que ce soit
no
ou par quoi que ce soit. Je mourrai le jour où je finirai ma course, pas un jour avant et puis non plus pas un jour après, parce que je suis sûre que là-haut c'est je sais que là-haut c'est mieux qu'ici. Amen. Donc parlons des choses de Dieu, parlons de Dieu. Dieu est quelqu'un qui veut se montrer.
Amen.
Dieu ne veut pas se cacher, il ne se cache pas. Il veut se montrer au travers de sa parole et au travers des choses qu'il veut faire. Le problème, c'est que quand on présente un Dieu piraté, eh bien, il n'y a pas d'œuvre. Amen. Amen.
Amen.
Et ça, on le voit dans le monde entier. Dans le monde entier, il y a des églises où l'on parle de Dieu, où on chante des chansons sur Dieu, où on prie, on fait des prières, et Dieu ne se manifeste jamais. Moi, j'ai déjà vu des églises comme ça. Des églises qu'on appelle des églises mortes. 20 personnes personnes, 15 personnes, et c'est mort. Tu entends bien, tu entends des choses. Ça parle de Dieu. Mais Dieu n'est pas là. Il n'est pas là. Souvent parce que le message n'est pas juste. Ou parce que le cœur des gens qui sont là n'est pas juste. Ou aussi parce que. Il y a toujours mille et une raisons. Amen.
Amen.
Dieu veut se montrer. Il n'a pas changé. Il s'est montré aux hommes dans les temps anciens et dans le temps dans lequel nous sommes. Il veut se montrer. Il veut se montrer dans ta vie. Amen. Amen. Il ne veut pas, Dieu ne veut pas que tu sois quelqu'un qui parle de lui, qui prie, et qui ne le voit jamais. Amen. Qui ne le voit jamais. Qui ne le voit jamais. Qui ne le connaît pas. Qui ne le comprend pas. Qui ne l'entend pas. Ça, c'est pas du tout sa volonté. C'est pas sa volonté. Dieu est un Dieu personnel. Il est quelqu'un d'intime. Il veut être ton meilleur ami, ton meilleur conseiller, ton aide et ton soutien. Mais il attend aussi d'une chose, comme le pasteur le disait tout à l'heure, que tu lui dises, Seigneur, tu es mon tout. Je suis entièrement à toi. Est-ce que tu peux dire cela? Je suis entièrement à toi. Il y a des prédicateurs qui donnent cette image. Le cœur de l'homme qui est comme une maison. Et vous savez, dans une maison, il y a salon, cuisine, salle à manger, chambre, salle de bain. Et il y en a qui disent comme ça, oui, Seigneur, ma vie est entièrement à toi. Mon cœur est à toi. Tu peux rentrer dans le salon, dans la salle à manger, dans la cuisine. Mais alors, la chambre, c'est pas ton domaine, Seigneur. C'est pour moi, cette partie de mon cœur, c'est à moi seulement, à moi. Si tu fais ça, cette partie de ton cœur que tu gardes juste pour toi, elle n'est pas sous la protection de Dieu. Amen.
Amen.
Quand tu dis, Seigneur, tout est à toi, ça
ne
veut pas dire que tu n'as plus rien, ça ne veut pas dire cela. Ça veut dire que tout est sous son autorité et sous sa protection. Et quand tu gardes quelque chose pour toi, ton petit trésor personnel que tu gères, je te promets qu'un jour ou l'autre, le diable va venir. Lui, il n'a pas besoin d'invitation, il viendra. Sans que tu le vois, sans que tu le réalises, au travers d'une circonstance, puis d'une autre, et encore d'une troisième, il va te faire chuter, il va te faire dévier. Parce qu'il y a cette petite partie de ton cœur que tu as gardée pour toi seul. Vous savez, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Je vous dis la vérité, c'est très dangereux. Seigneur, tout ce que tu voudras, sauf cette chose-là, je ferai tout ce que tu voudras, mais si tu me demandes telle ou telle chose, je ne le ferai pas. Bien sûr, personne n'ose le dire comme ça. C'est pas parce que tu n'as pas osé le dire que tu ne le penses pas et que tu ne le feras pas. Amen.
Amen.
Amen. Ne garde pas une petite partie de ta vie, même si c'est seulement le placard de la chambre. Cède, donne ça au Seigneur. Tout ce que tu es et tout ce que tu as. Tout ce que tu as.
Amen.
Vous savez, le Seigneur, il n'a pas besoin de notre argent. Il n'a pas besoin de ta voiture pour se déplacer non plus, si tu en as une. Il n'a pas besoin de ta maison, ni de tes possessions plus ou moins grandes.
Et
quand tu dis, Seigneur, c'est à toi, je le remets entre tes mains. Toi, tu en es le gestionnaire.
Lui,
il est le propriétaire. Et je vous assure que ça donne un soulagement incroyable. Dans notre cœur, ça nous donne un soulagement incroyable. Parce que tu vois tes choses, tu vois ton travail, tu vois toutes les choses. Des fois, il y a des moments difficiles. C'est comme tu as tout donné au Seigneur, tu peux lui dire, Seigneur, ça c'est pas mon problème parce que je te l'ai donné, c'est ton problème, vous comprenez, c'est ton problème, c'est toi qui t'en occupes, c'est toi qui agis dans cette situation, parce que moi je suis le gestionnaire. Et si on te vole à ce moment là c'est pas toi qu'on a volé, c'est Dieu. Attention, attention. Celui qui vole un chrétien consacré, qui a tout remis entre les mains de Dieu, il vole Dieu. Gare à lui. Est-ce que vous comprenez? C'est important de tout lui remettre et de tout lui donner. Amen. Dieu veut se montrer dans la vie de telle personne. Il veut se manifester, se montrer dans la vie de tous les hommes. Mais d'une manière particulière, dans la vie de ceux qui marchent avec lui de tout leur cœur. Pourquoi ? Parce qu'il veut montrer au monde, regardez celui-ci, il est à moi. Celui-ci, il m'a tout donné. Regardez comment il est béni. Et toi aussi, tu peux avoir ces choses. Amen. Amen. Dieu veut se manifester par des miracles. Il veut se manifester par des manifestations, par sa présence. Il est un Dieu de prodiges. Il est un Dieu de miracles. Il est un Dieu de signes. Voilà notre Dieu. Un Dieu de signes, de prodiges et de miracles. Quand tu lis la parole de Dieu, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, qu'est-ce que l'on voit? Des signes, des miracles et des prodiges. Ça, c'est notre Dieu. C'est celui que je veux voir dans ma vie et dans mon église. Et si je veux le voir dans ma vie, et je vous assure que je le vois, je vais le voir même davantage. Toi aussi tu peux le voir, et je veux que tu le vois aussi. Amen. 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 Comme ça, à chaque fois que tu prononces le nom de Jésus, il y a un sens. Il y a un sens pour toi. Je me rappelle, il y a des années de cela, je connaissais une chrétienne. Elle était nouvellement convertie, tout comme moi d'ailleurs. Et il y avait Jésus dans sa bouche pour tout et pour rien. Et parfois, ça n'avait même aucun sens. Je me rappelle, un jour, elle était fatiguée. Elle devait aller chercher son fils à l'école. Elle avait été occupée dans les travaux de la maison. Et elle s'assoit en disant, ah, Seigneur Jésus, quelle heure est-il? Comme si le Seigneur allait lui dire, il est 10h20. Amen. Mais que quand tu prononces le nom de Jésus, il y ait un sens, une réalité, une profondeur et une puissance. Comme c'est écrit dans la Bible. Pas autrement. Mais on voit aujourd'hui tout le monde qui dit Dieu ceci, Dieu cela. Ah Seigneur, ah Jésus. Il y a même des gens qui jurent par le nom de Dieu. Ah, au nom de Dieu, je te jure que ce n'est pas vrai. Vous savez que c'est grave d'employer le nom du Seigneur n'importe comment. Amen. Quand on lit l'Ancien Testament, quand on connaît les coutumes de cette époque, on sait que les gens qui recopiaient la parole de Dieu, parce qu'à cette époque-là, ça n'existait pas l'imprimerie. Il devait juste écrire le nom de Dieu. Alors, ils allaient prendre une douche. Imaginez ça. Avant d'écrire le nom de Dieu, ils savaient qu'ils devaient être propres. Prendre une douche. et prendre un stylo qui servait seulement à écrire le nom de Dieu. C'est sûr que c'est une tradition, c'est religieux. Mais il y avait une crainte. Une crainte. Amen. Amen.
Amen.
Dieu veut se manifester dans cette église. Il veut se manifester dans ta vie. Il veut se manifester dans cette nation au travers de vies qui sont consacrées et qui sont sanctifiées. Parce que Dieu est un Dieu saint. Que on arrête de parler de Dieu ceci, Dieu cela, et on ne le voit pas. Amen. Il est temps de le voir. Et il est temps pour lui de se montrer.
Vous
savez, Dieu est un Dieu de miracles. Et ce matin, j'aimerais que l'on regarde ensemble quel genre de miracle le Seigneur peut faire et comment il fait concourir les situations. Il donne des rendez-vous, des rendez-vous qui viennent de lui pour amener un homme qui a un cœur sincère de voir ces choses se manifester. On va lire dans 2 Rois chapitre 5. Vous pouvez ouvrir vos Bibles dans 2 Rois, deuxième livre des Rois, au chapitre 5. C'est l'histoire d'un homme qui ne connaissait pas Dieu parce qu'il était syrien. Il ne faisait pas partie du peuple d'Israël. Il ne connaissait aucun principe de la parole de Dieu. Mais il avait d'abord un problème et deuxièmement un cœur sincère. Et vous allez voir avec moi que les choses de Dieu ne sont pas difficiles ni compliquées. C'est vrai que nous devons marcher par la foi, que nous devons marcher par la parole de Dieu, que nous devons mettre en pratique les lois spirituelles que Dieu nous a données. Mais ça, ce ne sont pas des choses difficiles. Parce que Dieu est juste. Et si ça avait été difficile, il y aurait peut-être seulement parmi nous deux ou trois qui auraient été capables de le faire. Alors que tous, même les petits-enfants, sont capables de le faire. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant que cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de sa lèpre ? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même et il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, la Labana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ? et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire : Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Tu vas pas tout lire, c'est beaucoup. Ok. Tu vas lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 13.
Turasoma kuva ku murongo w'umunani. Maze Elisa wa muntu w'Imana yumvise ko umwami w'Abisirayeli yitantamuye ko impuzu ziwe amutumako ati niki gitumye witantamura ko impuzu zawe naze iwanje aramenya yuko mu Bisirayeli hari uvugishwa n'Imana nuko Namana araza azana n'amafarasi yiwe n'imikogote yiwe ahagarara mu muryango w'inzu ya Elisa Elisa araheza amutumako ati genda wiyuhagire muri Yorodani ibihetanga bondwi umubiri uraca usubira uko ahora nawe uzobuhumanutse ariko Namani acararaka arivumbura ati nahoze ngira ngo arasohoka ahagarare atakambire izina ry'Uhoraho Imana yiwe anzungagize ukuboko hejuru yaho ndwaye ankize imibembe mbega inzuzi z'Idamasiko abana ba Farupari.
Bon, c'est pas grave, c'est le Parpar et la Bana, c'est bon. Je pense que vous n'irez pas passer vos vacances là-bas la semaine prochaine, donc c'est pas grave.
Abana biwe baramwegera baramubarira bati mbega mutungwa iyaba uyu muvugishwa n'Imana akurangiye ikintu kigoye ntiwari kugikora nkaswe kukurabira ngo wiyuhagire uhumanuke.
Amen.
Amen.
Amen. Je ne voudrais pas m'étendre longuement sur le miracle qui s'est produit.
Parce que
vous l'avez lu, on l'a lu tous ensemble. Ce n'est pas vraiment ça le message que le Seigneur a mis dans mon cœur. Ça rejoint ce message de mercredi. Il y a des niveaux dans la connaissance de Dieu. Il y a des niveaux. Et là, c'est encore un exemple typique. Je vais vous parler de 4 personnes. Donc, on va parler de Naaman. On va parler du roi d'Israël. On va parler d'Élisée. Et on va parler de la 4e personne, je dirais plutôt groupe de personnes, les serviteurs de
Naaman.
Et ces personnes sont toutes, d'une manière ou d'une autre, confrontées à une certaine réalité et confrontées en même temps à la parole de Dieu. Vous savez, quand on est confronté à une réalité quelconque, il y a devant nous un défi. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais choisir? Où est-ce que je vais me positionner?
Comment,
il y a un défi. Est-ce que je vais oser croire la parole et agir sur cette parole? Ou au contraire, je ne vais rien croire, ou au contraire, je vais m'irriter. Quand on regarde
Naaman,
c'était quelqu'un d'important. C'était pas quelqu'un de basse classe. Il était le chef de l'armée du roi de Syrie. Et l'armée de Syrie à cette époque avait fait la guerre à Israël et ils avaient vaincu. Ils avaient même emmené cette petite fille du pays d'Israël. Donc vous voyez, un grand chef militaire, un héros de son époque, quelqu'un d'important. Même les gens importants peuvent avoir des problèmes qui ne sont pas capables de résoudre. Amen. L'homme est l'homme. Quel que soit son niveau d'importance, chaque homme est confronté par certains problèmes qu'il ne peut pas résoudre. Amen.
Amen.
Ça, c'est la vie. Dieu dit, la Bible dit que Dieu il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes.
Et
ça nous montre que qui que nous soyons, que tu sois un enfant, que tu sois un jeune, que tu sois quelqu'un de ordinaire, ou que tu sois quelqu'un d'élevé en position, tu trouveras dans ta vie des circonstances que tu ne pourras pas résoudre. Amen. Vous savez, la position sociale, même très élevée, n'est pas la réponse à toute chose. L'argent non plus n'est pas la réponse à toute chose. Moi, je connais des gens qui ont de l'argent, beaucoup d'argent, et qui sont malades, et pour lesquels les médecins ne peuvent strictement rien faire. L'argent n'achète pas les solutions. Amen. Ni la position sociale. Il y a des choses dans la vie des hommes et vous devez vous y préparer que vous ne pourrez pas surmonter ni avec votre intelligence ni avec vos relations, votre position sociale, ni même avec votre argent. C'est pour ça que il ne faut pas se confier dans ces choses au-delà d'une certaine mesure. Amen. Bon, c'est bien d'avoir de l'argent. C'est bien d'être bien placé dans la société. Ça peut faciliter certaines choses. Mais ce n'est pas la réponse à toutes les choses.
Mais
cet homme, il avait un problème. Un très grand problème. Vous savez, la lèpre, c'est une maladie à cette époque-là qu'on ne savait pas soigner. Donc ça veut dire que tôt ou tard, cette lèpre allait être visible. À ce moment-là, ce n'était pas vraiment quelque chose de visible. Mais on sait que la lèpre, ça détruit ça. Ronge petit à petit, progressivement. Les gens qui sont malades de la lèpre depuis longtemps, ils peuvent avoir des doigts qui tombent, plus de nez, conditions terribles. C'est vraiment affreux. Quand quelqu'un à cette époque savait qu'il a la lèpre, il pouvait réfléchir et se dire, dans 2 ans, je n'ai plus de nez. Dans 3 ans, j'ai plus de doigts. Imaginez un petit peu. C'est terrible. Amen. Essayez de vous mettre à sa place juste un instant, parce que c'est important de savoir ce que quelqu'un peut ressentir, surtout les jolies filles là. Dis-toi, dans 2 ans, j'ai plus de nez. Les champions de la marche à pied, dans 3 ans, j'ai plus d'orteils.
Tu
as marché comme ça. Parce que les orteils, ça nous aide quand même. Etc. Et cet homme, le matin, il se levait, il pensait à ça. Le soir, il se couchait, il y pensait encore. Toute la journée, même s'il était un super-héros, il avait un problème. Mais Dieu connaît les cœurs. Amen. Et moi, je sais une chose. Que ce soit pour Naaman, que ce soit pour n'importe quelle personne du monde entier, il y a des hommes qui ont des problèmes. Des problèmes terribles. Des choses parfois dont on ne peut même pas en parler. Je sais que Dieu est à côté de chacune de cette personne, prêt à lui parler, prêt à lui montrer une solution, prêt à le sortir de son problème. Parce que Dieu est compatissant. Compatir, ça veut dire il sait, il souffre avec toi, mais non seulement il ressent ce que tu ressens, mais encore il est capable de changer cette chose. Ça, c'est la compassion divine. La compassion humaine, c'est autre chose. Oh, vraiment, je suis désolée pour toi. Et alors voilà, t'es désolée, mais la désolation, ça changera rien. Amen. Amen. Mais la compassion divine change tout.
À
côté de chaque homme,
à
côté de chaque femme,
de
chaque enfant qui souffre, Dieu est à côté d'eux. Dieu est à côté d'eux, comme il était à côté de Naaman. Cet homme qui était un païen, Dieu était à côté de lui. Pourquoi ? Parce que Dieu voulait utiliser cette circonstance pour se manifester et se révéler dans sa vie. Dieu n'a pas rendu Naaman malade, pas du tout. Dieu est un Dieu de guérison, il n'est pas un Dieu de maladie. Mais il a utilisé cette circonstance pour venir, pour dire, attends, Naaman, tu ne me vois pas, tu ne me connais pas, je sais que tu as mal, je sais que tu souffres, et moi je suis là, je veux m'occuper de toi, je veux que tu le saches et je veux que tu me connaisses. Face à toutes circonstances, voilà qui est notre Dieu. Dans la vie des païens, dans la vie des chrétiens, parce qu'il est le même Dieu. Dans la vie des païens, pour les amener à se tourner vers Jésus. Et dans la vie des chrétiens, parce que les chrétiens, ce sont ses enfants et il les aime. Il veut se manifester. Et c'est ce que le Seigneur commence à faire. La petite fille qui est là. Une petite fille. Je ne sais pas, elle devait. C'est marqué une petite fille, ce n'est pas marqué une jeune fille. Une petite. Je pense qu'elle devait avoir entre 10 et 15 ans. Parce qu'elle était au service de ces gens-là. Pour pouvoir faire un minimum de choses, il faut quand même au moins avoir 10 ans. Elle devait avoir entre 10 et 15 ans, pas au plus. Elle ne connaissait pas grand-chose, la pauvre petite. Parce qu'elle était petite. Amen. Mais elle savait une chose. C'est qu'en Israël, il y a un Dieu. Elle savait ça. Elle n'aurait pas été capable de prêcher, de lire la loi, d'expliquer les principes de la parole de Dieu. Mais elle savait, en Israël, il y a un Dieu. Amen. Et en fait, le peu de connaissances qu'elle avait, c'était le Dieu d'Israël, mais aussi le serviteur de ce Dieu qui s'appelle Élisée. Amen. Prophète, c'est-à-dire la serviteur de Dieu. Élisée était un serviteur de Dieu. Il était un prophète, il était un serviteur de Dieu. Et au travers de son ministère, il y a eu deux fois plus de miracles qu'au travers du ministère d'Élie. Tout le monde savait ces choses. Tout le monde savait ces choses. Elle le savait. Donc elle va dire à son maître, écoute, si seulement tu es allé en Israël, là il y a un prophète, il te guérirait. Et ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est qu'on voit dans les hommes d'abord l'ignorance complète. Ensuite on voit à côté une connaissance très limitée. Et aussi on voit des cœurs. Des cœurs qui cherchent Dieu. Des cœurs qui ont soif de Dieu. Vous savez, Dieu ne cherche pas des experts. Il cherche des gens qui sont simples et qui sont sincères. Et Dieu veut savoir comment contourner les erreurs, les incompréhensions de Naaman pour amener son plan qui est sa guérison. Naaman ne connaît rien. On lui donne une information qui n'est pas tout à fait vraie. Parce que ce n'est pas un prophète qui peut guérir qui que ce soit, c'est Dieu qui guérit. Mais le Seigneur ne se vexe pas pour autant. Il va aider Naaman à arriver jusque devant Élisée. Encore, il va se tromper encore de direction. Parce que Naaman va aller voir son patron, il va aller voir son maître, il va aller voir le roi de Syrie. Il va lui dire, écoute, il faut que je puisse aller en Israël. Parce que il y a cette jeune fille qui m'a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie, alors il ne connaît pas Dieu. Lui non plus. Et pas du tout. Il réfléchit et il raisonne comme un roi. Quand un roi sait qu'il y a un problème qu'il doit traiter avec quelqu'un qui vit dans un autre pays, obligatoirement il va s'adresser au roi de l'autre pays. Lui, le roi de Syrie, dans son raisonnement, il sait qu'il doit contacter le roi d'Israël. Amen. Et là, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur énorme. Parce que quand on voit ce roi d'Israël, c'est le roi Joram de cette époque. Alors c'était un roi qui ne connaissait pas Dieu et qui n'avait pas un cœur pour Dieu. Vous savez, on peut ne pas connaître Dieu, ne pas connaître tous ses principes et toutes ses choses. Mais quand tu as un cœur sincère, Dieu trouvera toujours le moyen de te faire comprendre. Amen. Dieu ne change pas. Il est celui qui ne changera jamais. Même si tu es sincère, Dieu ne changera jamais. Mais il va s'arranger pour que toi, tu comprennes que tu changes et que tu arrives à te positionner là où tu peux recevoir la bénédiction. Amen. Donc, quoi que ce soit que vous viviez, ne dis pas, Seigneur, fais ceci, fais comme ci, fais comme ça. Si tu as prié que tu ne vois pas de résultat, demande au Seigneur, quel est mon problème ? Amen. C'est toujours comme ça. C'est, Seigneur, quel est mon problème? Je sais que toi, tu n'as pas de problème. Je sais que tu es un Dieu fidèle à ta parole, que tu ne changes pas, que tu es véritable. Je sais aussi que le problème ne peut pas venir du diable parce que tu l'as vaincu, il est sous mes pieds. Mais il y a quelque chose dans ce que je vis que je ne vois pas, que je ne comprends pas et que j'ai besoin de comprendre. Amen. Bien sûr, Naaman n'a pas fait cette prière parce qu'il n'était même pas capable de faire cette prière. Amen. Donc, en parlant du roi Joram, lui, il ne connaît rien et il ne veut rien connaître. C'est le type même de l'homme qui est dans la chair, qui est hermétiquement fermé aux choses de Dieu, qui ne les comprend pas, qui ne veut pas les comprendre et qui ne peut pas les comprendre de toute manière. Quand il reçoit cette lettre, et ne pensez pas que je sois méchante ou dure avec lui. Si vous lisez seulement quelques chapitres avant, au chapitre 3, vous allez voir une histoire extraordinaire. Le roi Joram a vu la gloire et la délivrance de Dieu dans un moment vraiment difficile par un très grand miracle, le miracle des fosses qui se remplit d'eau et cette délivrance de la main de Moab. Joram avait déjà vu des choses. Donc il était vraiment inexcusable. Donc il reçoit cette lettre et il déchire ses vêtements. Est-ce que je suis Dieu pour faire mourir, pour faire vivre? Vraiment, ce roi-là, il s'adresse à moi parce qu'il me cherche des histoires. Alors, non seulement il voit rien, il comprend rien, mais en plus, il est paranoïaque. Il croit que c'est accès contre lui. Parce qu'il se trouve tellement important à ses propres yeux que dès qu'il y a la moindre chose qui arrive, il croit que c'est contre lui. Vous savez, il y a des gens comme ça qui sont paranoïaques. Par exemple, je suis en train comme ça là, et toi tu me dis, mais pourquoi tu me regardes alors que je suis en train de regarder la bannière Et il y a tout un cinéma qui se fait dans sa tête. Oui, merci. Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Pourquoi elle dit ça? Les gens qui se croient tellement importants, qu'ils pensent que tout est focalisé sur eux, ou tout est orienté contre eux, ou qu'ils sont impliqués dans toute chose, on ne pense qu'à eux, on ne parle que d'eux. Vraiment, dans ce problème des gens paranoïaques, ils pensent qu'ils sont le centre du monde. Pour qu'on s'occupe seulement d'eux, qu'on ne pense qu'à eux. Ou si on regarde comme ça, ça y est, elle me regarde. Ah non, je regarde l'heure qu'il est là-bas.
Vous
voyez, des choses comme ça. Et ce roi-là, il est vraiment paranoïaque. Le roi de Syrie n'avait rien à lui demander. Il ne lui cherchait pas des problèmes. Il voulait seulement aider son général. Et vous savez, le Seigneur sait comment faire. Il amène les choses de telle manière à ce que Élisée est au courant. Élisée est au courant. Il dit à Joram. Parce que avant, il lui a dit quelque chose de pas très gentil. Je vais vous lire cette parole. Dans Deux Rois, chapitre 3, verset 13, Élisée dit au roi d'Israël, « Qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. » Et le roi d'Israël lui dit, « Non, car l'Éternel a appelé ses rois, ses trois rois, pour les livrer entre les mains de Moab. » Élisée dit, « L'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Et si je n'avais pas égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderais pas. » Amen.
Amen.
On voit Naaman, le roi de Syrie, le roi d'Israël. Maintenant, on va parler d'Élisée. Chacun a ses préférés, n'est-ce pas? Je pense qu'on a tous un héros de la Bible préféré. Un héros de l'Ancien Testament. Il y en a qui préfèrent Abraham. Il y en a qui préfèrent Moïse. Il y en a qui préfèrent Josué. Il y en a qui préfèrent David. Moi, mon préféré, c'est Élisée.
Élisée,
il n'a jamais fait d'erreur. En tout cas, pas d'écrite. Peut-être qu'il a fait des erreurs, mais ça ne devait pas être très grave, sinon ça aurait été écrit.
Amen.
Il n'a jamais fait de péché dramatique comme David. Vraiment, c'est le pauvre. Tout le monde peut le lire.
Amen.
Moïse, il a désobéi à Dieu. Il a frappé le rocher alors qu'il devait parler au rocher. Il a tué un Égyptien. Il s'est marié avec une femme apparemment qui était un peu bizarre. Et il a fini, il n'est même pas rentré dans la terre promise. Bon, c'est vrai, il y a de grandes choses. Mais ce n'est pas lui mon préféré. Moi, mon préféré, c'est Élisée. Quand on lit relisez la vie d'Élisée. Pendant 11 ans, il a été dans l'ombre. Personne ne le connaissait. Mais il a appris pendant 11 ans à servir le Seigneur. On peut lire sa vie, je crois que c'est à partir du chapitre 19.
Ouais.
Vous pouvez lire, lisez cette semaine 1 Roi chapitre 19 verset 19 et vous continuez jusqu'au milieu de Deux Rois, là où Élisée va mourir. Élisée, c'était un homme rempli de foi, rempli d'assurance, bien plus qu'Élie. Élie, quand les choses commencent à devenir dangereuses, il prend la fuite. Il entend que Jézabel veut le tuer. Il prend la fuite. Élisée, il entend que le roi Joram veut le tuer.
Et
il va dire, voyez ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour me couper la tête. Repoussez-le avec la porte. Moi j'aime Élisée. C'était un homme rempli de foi. Même devant la mort d'un enfant dont il avait prédit la naissance, il ne va pas se démonter en disant « Bon, Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de Dieu soit béni. » Non, 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 il a refusé la mort de cet enfant et il a prié jusqu'à temps qu'il revienne à la vie. Dieu a donné, personne ne reprend. C'était un homme de foi, un homme de Dieu qui avait un cœur 100% pour Dieu, un homme que Dieu a utilisé tellement puissamment. Et là encore, il ne regarde pas aux hommes pour s'incliner devant l'un et dire à l'autre, allez, pousse-toi, toi. Non. Il regarde tous les hommes au même niveau. Ça
ne
veut pas dire qu'il manquait de respect, mais ça veut dire qu'il honorait Dieu avant toute chose. Amen. Alors Naaman vient le voir, et bien sûr Naaman, comme je vous le dis, il ne connaît rien, il
ne
comprend rien à Dieu ni aux choses de Dieu, ça le dépasse complètement. Donc il a fait tout ce voyage avec une longue caravane de, je ne sais pas, de mulets, de chameaux, tout le monde vient avec lui. Il a des serviteurs, des vêtements de rechange, de l'or, de l'argent. Et il arrive devant la maison d'Élisée. Il envoie son serviteur. Et le serviteur fait toc, toc, toc. Alors, Naaman, c'est quand même pas n'importe qui. Alors, Naaman, il sait que Élisée va sortir. Comme les charlatans, vous savez. Il va venir, il va faire des courbettes. Avec ses tambourins, des... Il va prendre un air très théâtral. Agiter la main à droite. À droite, c'est là. À droite. Agiter la main à gauche. Et guérir. Le lépreux. C'est ce que Naaman s'attendait à voir. Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Il
ne
connaît que la tradition. Mais Élisée, c'est un homme qui connaît Dieu. Qui écoute Dieu. Qui obéit au Saint-Esprit. Même dans ses moindres détails. Il sait qu'il doit rester à l'intérieur. Et ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est juste pour aider Naaman à comprendre qui est Dieu. Parce que depuis le commencement, le Seigneur était à côté de Naaman. Il était à côté de lui. Et il voulait que cet homme soit guéri. Mais pour pouvoir être guéri, il a dû changer dans ses façons de penser, ses façons de percevoir Dieu. Il a dû se soumettre, lui le grand Naaman, jusqu'à aller se mettre en culotte devant tout le monde et aller se tremper 7 fois dans de l'eau sale, parce que le Jourdain est connu pour être un fleuve qui est, l'eau est boueuse. Et Dieu a voulu faire passer Naaman par là pour changer son cœur. La guérison a été son plan depuis le début. Mais il fallait que le cœur de Naaman soit changé. Il le fallait. Alors Élisée, qui est vraiment un homme de Dieu, il sait qu'il doit rester à l'intérieur. Il envoie son serviteur et dit, va te laver. Et le Naaman, il devient furieux. Furieux. Comment? J'ai fait 500 km à pied pour venir ici. On ne me reçoit même pas. On ne s'incline pas devant moi. On ne fait pas tout le protocole, tout le cérémonial qui m'est dû à moi. Général de l'armée de Syrie. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Voyez l'orgueil. C'était l'obstacle. Tellement orgueilleux qu'il part furieux. Je suis sûr qu'il a même dû donner un coup de pied dans la porte de la maison d'Élisée. C'est pas écrit, mais il a dit quel imbécile ce prophète. Et partir en donnant un coup de pied. Amen. Il y avait cet orgueil qui empêchait sa guérison aussi. Amen. L'orgueil. Il part en colère. Mais heureusement, il y a le dernier groupe. Dieu est le maître du temps. Et il change les circonstances. Il peut utiliser tel et tel et tel et tel. Jusqu'à temps que tu finisses par comprendre qu'il t'aime et qu'il veut agir en ta faveur. Et si tu as de l'incompréhension, il va s'arranger pour que ça parte. Et si tu as de l'orgueil, Dieu va le briser. Amen. Parce que l'orgueil, ça nous empêche de tellement de recevoir de choses. Et les serviteurs qui sont là, sages. Moi, je vois vraiment le ministère du Saint-Esprit. Au travers de ces gens qui sont aussi des gens comme Naaman, des Syriens. Et qui lui disent, mais Naaman, si on t'avait demandé quelque chose de difficile, si on t'avait demandé de rentrer à la maison en marchant sur ta tête ou sur tes mains, si on t'avait demandé de ramper par terre sur des cailloux ou d'offrir ton fils en sacrifice, tu l'aurais fait. Mais là, on te demande quelque chose de facile. Fais-le et tu seras guéri. Essaye, fais-le, agis sur cette parole, parce que cette parole, c'est la parole de Dieu qui t'a été donnée. Agis sur cette parole et tu seras guéri, et tu seras guéri. Et voyez, on voit le cœur de Naaman, incompréhension, orgueil, mais sincérité, il était sincère. Et il a réfléchi et il a accepté de changer. Et parce qu'il a accepté de changer, parce que Dieu n'allait pas changer, Dieu n'allait pas dire bon, ok, il ne veut pas se plonger dans le Jourdain, allez, on va lui donner autre chose à faire. Dieu ne change pas. Quand il dit une chose, c'est cette chose et pas une autre. Fais ce que Dieu te demande, parce que c'est là qu'est la bénédiction. C'est là et seulement là, nulle part ailleurs. Il décide d'obéir. Et quand il sort de l'eau, il est entièrement guéri. Et après cela, il revient. Il aurait pu rentrer, mais il revient avec sa guérison, mais bien plus que ça, un cœur changé, parce qu'il a rencontré le Dieu véritable. Il l'a rencontré. Il pourrait lire la suite à la maison et il va dire, écoute, je reconnais que le Dieu d'Israël, c'est le seul et unique vrai Dieu. Mais tu vois, à cause de ma situation, de ma charge, je suis obligée d'accompagner mon maître là dans ce temple d'idoles, mais je n'y crois plus. Est-ce que Dieu peut me pardonner si, quand mon maître se prosterne, j'ai pas trop le choix? Mais sache que mon cœur n'est pas dedans. Et Élisée va lui dire, va en paix. Va en paix. Voyez, Dieu veut se manifester. Il ne veut pas seulement te guérir pour que tu repartes dans le même état. Il veut guérir, il veut pourvoir. Mais au-delà de tout cela, il veut changer la vie des hommes. Il veut se montrer, il veut se révéler pour que tu le connaisses. Non pas que tu profites seulement d'un truc ou deux. Mais je vous assure que cet homme, après cette expérience, il n'était plus jamais le même. Amen. On va prier ensemble.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.